Nous sommes tous les deux, François et moi, des enfants des villes. Moi, je suis né à Paris et je suis arrivé à Bruxelles à l'âge de 2 ans. François est né à Bruxelles, a pratiquement toujours vécu à Bruxelles. Je n'ai pas de souvenir d'avoir durablement vécu ailleurs qu'en ville. C'est un petit peu sous ce signe qu'on s'est rencontrés, François et moi, quand on était enfants. Et aujourd'hui, je vis principalement au cœur de Paris. Donc voilà, la ville est là comme à la fois un centre d'intérêt, mais aussi peut-être ce que nous connaissons le mieux. Et Bruxelles, en tant que ville réelle, est sans doute l'inspiration d'abord inconsciente et puis plus consciente de tout notre travail. C'est-à-dire que Bruxelles imparfait, Bruxelles incomplet, Bruxelles qui parfois donne envie de se mettre un petit peu en colère, qui à d'autres moments suscite notre enthousiasme, Bruxelles était là dès le premier album, Les Murailles de Samarie, ça a toujours été là en filigrane. Et ici, on a eu envie de mettre en avant plutôt tout ce qu'on aimait dans Bruxelles, ou tout ce qui faisait rêver, tout ce qui donnait matière à récit.
Est-ce que raconter la ville, ça n'est pas un peu la figer ?
Je ne crois pas. Je crois que c'est lui redonner d'une épaisseur de temps, parce que parfois quand on passe devant un bâtiment, ou qu'on passe dans une rue, on la regarde superficiellement. Et quand on voit tous les rêves qu'il y a eu derrière, parfois tous les conflits, toutes les histoires, dans tous les sens du terme, je crois que ça enrichit le regard. Je prends un exemple. Je descendais depuis le Sablon, je passe par la place Alfred Stevens. Bon, la place Alfred Stevens, c'est évidemment la mémoire de la maison du peuple Victor Horta, qui était là avant d'être remplacée par l'horrible tour que l'on sait. Raconter ce qu'il y a eu, ce rêve extraordinaire de construire un palais pour le peuple, pour les ouvriers, un bâtiment engagé qui était à la fois moderniste et avec une forte vocation sociale. Se souvenir que ce bâtiment, après avoir été aimé, il avait été inauguré par Jaurès, a été détruit malgré une pétition signée par des centaines d'architectes. Et bien, tout d'un coup, ça peuple cette place, c'est-à-dire qu'on a envie de la regarder. Moi, je rêve depuis longtemps qu'il y ait à cet endroit une plaque, quelque chose, un petit stèle qui rappelle, ici s'élevait la maison du peuple de Victor Horta, détruite dans l'indifférence au milieu des années 60 et remplacée. Bah, voilà. C'est-à-dire que je pense que ça enrichit notre regard. Et de la même façon, quand des gens occupent une maison ancienne ou achètent une maison ancienne, parfois ils ne se souviennent pas de tout ce qu'il y a eu avant eux et qui peut-être fait que cette façade un petit peu sale, ces vieux châssis qui laissent un peu passer le froid, ils ont une histoire et qu'ils ont été porteurs de quelque chose qui nous inscrit dans le passé de cette ville.
Ce qui m'a frappé dans ce livre, c'est qu'il y a deux sortes d'humains qu'on trouve dans ce livre, les passants qui ont le regard dès la couverture vers le sol, et les seuls portraits qu'on ait de personnes s'inscrivant pleinement dans la ville, dans la cité de Bruxelles, ce sont les créateurs. C'est un peu comme si une ville ne pouvait exister qu'à travers la création et rien qu'à travers la création.
Non, je crois qu'on fait une certaine place, en tout cas dans le texte, j'essaie de le faire, aux habitants, par exemple au mouvement de quartier. On est ici au cœur des Marolles, on peut se souvenir de l'abbé Jacques van der Bist, de tout le mouvement qu'il a fait pour lutter contre les extensions du palais de justice et sauver le quartier. On peut se souvenir du quartier nord et des extraordinaires mouvements d'habitants, et puis de Larro qui a pris le relais, etc. Donc il y a cela. Mais c'est vrai que ce livre n'est pas une histoire objective de Bruxelles. C'est une histoire subjective, c'est-à-dire que ce sont des lieux, des gens, des moments qui nous ont frappés. J'ai appris beaucoup de choses en préparant ce livre. Je croyais bien connaître Bruxelles, on apprend toujours. Et finalement, beaucoup de livres qui disent qu'ils sont des histoires de Bruxelles sont plutôt des histoires de la Belgique, où Bruxelles a sa place en tant que capitale institutionnelle, mais pas vraiment la ville dans son âme et son mouvement. On sait que Léopold II avait des grands rêves pour Bruxelles. Et Charles Buls, lui, était déjà soucieux du patrimoine. Il écrivait des petites brochures pour expliquer le charme des villes médiévales, pourquoi la courbe, pourquoi la petite rue pouvait être préférable quelquefois à une large percée. C'est notamment tout le débat qu'il y a eu autour du Mont des Arts, de la montagne, de la cour, la rue Ravenstein, enfin tous ces endroits-là. Eh bien, on s'aperçoit là, par exemple, que l'histoire de la ville s'est faite de manière vivante par cette tension entre deux hommes de pouvoir, l'un qui avait un petit pouvoir local, mais qui entendait bien l'exercer, et qui avait une vaste culture, et l'autre qui voulait tourner la ville vers un destin grandiose, à la hauteur du Congo. Bon, voilà ce que j'aime raconter dans un livre comme cela. Alors, oui, est-ce qu'on peut dire que c'est peut-être deux créateurs, en tout cas ces deux figures qui ont pesé fortement sur la ville, positivement ou négativement, et qui font que la ville est ce qu'elle est aujourd'hui.
Vous êtes un homme de culture, au sens large du terme, je ne parle pas de la culture livresque, je ne parle pas de tout ça, c'est votre caractéristique, s'intéresser aux gens à travers la culture.
La culture ou les cultures, la création aussi, c'est ça, je pense que la culture est peut-être liée à ce qui existe et la création à ce qui est en train de se faire, donc je trouve qu'il faut les deux pôles, et par exemple dans le regard sur une ville, il faut être tourné vers l'avant et se dire qu'une ville bouge et croît comme un être vivant, mais en même temps sa culture, c'est son histoire, c'est sa mémoire, c'est ce qui fait qu'une rue regorge de souvenirs, de petites contradictions, d'étrangetés, de passages secrets, de choses. Oui, cette culture compte pour moi, mais effectivement, comme vous dites, pas dans le sens simplement d'une culture livresque. Il y a d'abord une culture des pierres, il y a aussi une culture des arbres, une culture diverse chez les humains, qui sont tous porteurs au fond d'un héritage. Je ne suis évidemment pas du tout du côté de défendons la culture classique. D'ailleurs, Bruxelles ne pourrait pas prétendre de ce point de vue-là à une pureté. La Belgique sait qu'elle est faite d'un mélange, hein, comme on dit parfois, de cultures inoque. Enfin, il y a quelque chose là que j'aime beaucoup. Et je crois à la richesse de ces apports. Mais ce qui a manqué quelquefois à Bruxelles, c'est d'être fier d'elle-même. C'est d'être fier de son histoire propre. Et Bruxelles, trop longtemps, s'est placée dans l'imitation de grandes capitales. Donc, au XIXe siècle, Hans Pack rêvait du Paris d'Haussmann. Il rêve de Londres. Mais c'est des villes d'échelle totalement différentes. C'était les capitales de très grands pays. Donc on voyait grand. Parfois, on voyait un peu trop grand. Au XXe siècle, surtout dans les années 60 et 70, on rêvait de New York. C'est dit, on a l'OTAN, on a l'Europe, on va être le petit New York européen. Et du coup, on a fait le quartier Nord, le plan Manhattan. En oubliant que le plan Manhattan, c'était aussi le nom du projet secret de bombe atomique pendant la guerre. Bon, c'était pas une bombe atomique sur Bruxelles, mais c'était quand même un fameux bombardement de la structure ancienne de la ville. Et donc, François et moi, nous plaidons pour que Bruxelles se réconcilie avec sa propre mémoire, avec son histoire, avec ses blessures et ses fantômes. On ne va pas faire comme si rien n'était arrivé, comme si la bruxellisation n'avait pas eu lieu. Mais il reste une énergie. Vous parliez de culture. Beaucoup d'artistes sont attirés par Bruxelles parce qu'il y a une qualité de vie, il y a des forces. Et ce sont ces forces sur lesquelles il faut s'appuyer aujourd'hui et ne pas se contenter de pleurer la disparition de la Seine ou les ravages de la jonction Normandie.